Chers amis, chers frères et sœurs de Radio Présence, nous continuons notre lecture tranquille du premier livre de Samuel et nous voyons que le petit Samuel est devenu un prophète et qui va devoir s'occuper du peuple et faire la transition entre les juges, c'est-à-dire des chefs improvisés un petit peu ou qui durent un certain temps, pour laisser place à un roi. Et ce qui n'a pas été du tout évident. Et nous disions la dernière fois que l'arche d'alliance qui est le signe de la présence et de l'action de Dieu avait été prise par les ennemis des Israélites qui sont les Philistins, car Dieu ne consent jamais à ce que les signes sacrés de sa présence et de son action servent d'alibi à notre relation vivante avec lui. Pas plus que le temple de Jérusalem à l'époque de Jérémie. L'arche d'alliance ne peut se substituer aux bonnes dispositions du cœur des fidèles. Tout acte liturgique n'a de valeur que s'il est animé par un effort d'adhésion intérieure à Dieu, par un consentement de plus en plus total à son alliance. Les Philistins exultent d'avoir pris la gloire d'Israël. Ils n'ont rien de plus pressé que d'en faire l'offrande à leur idole dans son temple. Leur Dieu a été vainqueur du Dieu des Hébreux, mais mal leur en prend. La seule présence de l'arche de Dieu fait tomber l'idole la face contre terre. Des boutons ou des tumeurs affligent les habitants du pays et des rats se multiplient dans la contrée. Le Seigneur est un feu dévorant, comme dit Deutéronome, et les Philistins s'en aperçoivent et se débarrassent au plus vite de la haute tension divine. L'arche retourne donc en Israël et y provoque la joie que l'on devine. Et certains ne la partagent pas et sont durement frappés par Dieu. Il est clair pour tous que la présence du Seigneur n'est pas purement symbolique. Dieu se manifeste comme supérieurement actif à partir du lieu de sa demeure. Il continue son action depuis les tabernacles de nos églises. Il est connu que l'influence diabolique est moindre là où la présence réelle est honorée. Et c'est vrai dans beaucoup de continents, et les missionnaires ont beaucoup d'histoires de ce type-là à nous raconter. Ces événements redonnent ferveur au peuple de Dieu, mais pour un temps seulement. Selon le cycle que nous avons vu se reproduire dans le livre des juges. Lorsque la main des Philistins se fait plus lourde, les Israélites viennent implorer Samuel pour qu'il invoque le Seigneur en leur faveur. Et le fils d'Anne, c'est Samuel, offre un holocauste et semble inaugurer de la sorte sa fonction de juge en Israël. Rien de très nouveau, semble-t-il, par rapport à ce qui s'est passé lors des juges qui l'ont précédé. Et quand il vieillit, Samuel, il a soin d'établir ses fils comme juges encore. Le peuple, cependant, s'est lassé des hauts et des bas qu'entraîne ce régime. Il aspire à être gouverné par des chefs moins occasionnels et, pour tout dire, moins charismatiques. Dieu suscite des juges quand bon lui semble, ou plus exactement quand les Israélites mettent un comble à leurs mauvaises actions d'une certaine manière, et les Israélites voudraient un guide plus à leur portée, et ils demandent à être dirigés par un roi, comme toutes les autres nations. Cela, dit le texte, déplut à Samuel qu'ils aient dit « Donne-nous un roi pour qu'il nous juge ». Le mot juge revient, la fonction des juges autrefois était juger, c'est-à-dire c'est discerner, et donc c'est gouverner, c'est l'acte de gouverner. Le mot roi, le roi, ça vient de rex en latin, ça vient de regere qui veut dire diriger, le mot diriger, c'est la racine rex qui est également présente. Un roi, comme un chef, est destiné à gouverner, à diriger, à conduire. Peut-on dire encore. Voilà, c'est même un duc, ducere en latin, ça veut dire également qu'on conduire. Regere, ducere, d'où vient le mot roi, d'où vient le mot duc, c'est tout à fait le même sens. Et donc cela déplut au Seigneur qui demande un roi. Mais le Seigneur dit à Samuel, satisfait à tout ce que te dit le peuple, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté, en ne voulant plus que je règne sur eux. Et il faut bien comprendre que cette gifle infligée à Dieu par la demande d'un roi, parce que c'est tous les psaumes de la royauté, et les psaumes du règne, comme on les appelle au milieu du psautier, chantent cette royauté de Dieu. Et Dieu est le seul roi, en définitive. Et nous fêtons encore, nous-mêmes, nous en viendrons, la fête du Christ roi à la fin de l'année liturgique. Et donc il faut bien comprendre que cette gifle infligée à Dieu est une gifle qui le touche de très près. Et dans toutes les nations ou civilisations qui entouraient Israël, le roi n'était pas un simple chef. On le percevait comme lié à la divinité dont il était, on l'appelait le fils de Dieu, le fils des Incas, comme vous vous souvenez, au moins fils adoptif. La fonction royale se trouvait indissolublement jointe à la religion. La révélation donnera toute sa portée à ses pressentiments quand le Christ nous aura montré son identité de fils de Dieu et de roi. Mais dans les religions païennes, le roi humain était divinisé jusqu'à devenir une idole. La rectification de la révélation consistera à faire passer du roi Dieu au Dieu roi. Au milieu du psautier, comme je l'évoquais il y a un instant, les psaumes du règne, ainsi qu'on les appelle, c'est les psaumes 96 à 99 de manière précise, revendiquent pour le Seigneur seul la royauté en toute son ampleur. Les rois de la terre ne sont que des lieutenants et ils doivent s'efforcer d'imiter la conduite de leur Seigneur. Et c'est ce qu'ils font de mieux, c'est ce qu'ils ont de mieux à faire.